19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 19h-20h, c'est l'heure de votre quotidienne sportive Tam Sport. Et oui, toujours en live du lundi au vendredi, en ce lundi 6 janvier 2020, seconde semaine de l'année 2020. Et oui, qui s'annonce assez dantesque avec, on l'oublie pas, les Jeux Olympiques du côté du Japon, sans oublier la phase finale de l'Euro 2020 à travers toute l'Europe. Au menu de cette émission, on aura le cas de Mario Balotelli, encore une nouvelle fois victime d'injures racistes lors du match Brescia face aux Lazialistes de la Lazio de Rome, perdu 2-1. Mais aussi l'histoire folle de LeBron James, ce côté business, sans oublier l'Égyptien Amel Fahmy, candidat à la présidence de la CAF en Afrique. Mais on s'attardera bien sûr sur les 32e de finale de la Coupe de France. Et oui, ça promet en tout cas avec cette trêve hivernale. Et on aura dans cette émission Zlatan Ibrahimovic. Non, pas avec nous, on aurait aimé, hein. Mais en tout cas, on aura ce magnifique joueur qui a posé ses valises du côté de la Lombardie au club kinémétant le Milan AC. J'ai eu plus de propositions à 38 ans qu'à 28 ans. Voilà, ça c'est une déclaration qu'il a faite. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous sur l'antenne de Beurre FM, mais aussi sur la tutosphère avec le nom et le hashtag du nom de cette émission qui est Tam Sport. C'est parti, go go Tam Sport, on y va.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Hervé Dibi. Comment ça va, Hervé ?
Salut Bilal, salut les auditeurs.
Ça me fait super plaisir de t'avoir, Hervé.
Moi aussi, ça fait un moment.
Ouais, ça fait un moment. On t'a pas vu. Une bonne santé, une bonne année.
Exactement, pareil, ouais. Pour toi aussi, oui.
Et pour tout le monde aussi, pour tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Loïc Caudran, comment ça va, Loïc ?
Bah ça va bien, et toi ?
Ça va très très bien, Loïc. Et ravi de t'avoir avec nous en ce début de semaine sur Beurre FM. Le coach Tollé nous accompagnera durant cette émission. Comment ça va ?
Ça va très bien, Bilal. Bonsoir tout le monde.
Ah bah c'est super ça. Oui, oui. Tu n'oublies pas, on a un invité de marque ce soir, Nordine Elouadani, l'entraîneur du FC Tours. Ça promet. Après le premier sujet, justement, on va s'attarder sur le football, encore une fois, italien.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, ce football qui fait rage. Mario Balotelli, à nouveau victime d'un jeu raciste du côté de la Serie A et qui reprenait dimanche midi avec ce Brescia Lazio buteur, l'ancien attaquant de Nice et aussi de l'Olympique de Marseille, a dû de nouveau dû faire face à des injures racistes, encore un match arrêté. Est-ce vraiment, Loïc, productif, avec les moyens techniques actuels, n'est-il pas possible d'identifier une fois pour toutes les auteurs de ces délits ?
Si, je pense que ça reste quand même quelque chose de possible, même si ça va être très très compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à combattre ce fléau-là.
Il est toujours là, ce fléau. On en parle toujours. Je crois tous les mois, on en parle, le coach Tollé, dans cette émission. Non, mais vraiment, ça me fait pas sourire, hein.
C'est pas normal qu'en 2020, en fait, il y a encore ce problème-là, surtout dans un sport. Même si ça ne veut rien dire, mais surtout dans un sport aussi populaire que le foot, ça devrait vraiment pas arriver.
Exactement.
Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut vraiment que les instances prennent les choses au sérieux. Parce qu'on dit qu'il faudrait que les joueurs fassent ça, il faudrait que les joueurs fassent ceci, qu'ils quittent la pelouse, qu'ils quittent le terrain. Mais tout ne dépend pas que d'eux, en fait. Tout ne dépend pas que d'eux. Et je pense qu'ils sont un petit peu laissés, entre guillemets, à l'abandon par certaines grandes instances.
Après, c'est pas la première fois que ça arrive, Bilal.
Hervé, oui. Enfin, mais justement, il y a trop de fois.
Exactement, depuis le début de la saison, en Italie, c'est déjà la quatrième fois, tu vois, que des tifosi profèrent des cris racistes, des insultes racistes.
Et c'est pas la première fois à l'encontre de Mario Balotelli.
Exactement,
aussi.
C'est arrivé lors de Hellas Vérone Brescia. C'est arrivé, c'était envers Balotelli. C'est arrivé lors de Hellas Vérone Milan AC. Au mois de septembre, c'était envers le joueur Franck Kessier. Cagliari Inter, c'était Lukaku qui était la cible. Et c'est également arrivé au mois d'octobre, lors de Roma Sampdoria, où c'était le joueur anglais d'origine guinéenne, Ronaldo Vieira, qui était la victime de ces cris racistes. Moi, je pense que tant que les autorités du football italien et international feront la sourde oreille, ce genre de dérive continuera à arriver.
Mais quelles mesures à prendre ? On en a parlé ici avec Amel, avec Yacine, avec Achille, ou encore Anna, Myriam, Marion et Olivier. Je vais tous les citer, mais c'est pas possible, quoi. Même les auditeurs nous le disaient, le coach Tollé. Que faire ? Arrêter carrément le match. et faire passer ou enlever des points carrément aussi au club.
Faut frapper fort.
Ouais.
Faut frapper fort en fait, comme l'a dit Hervé, ça frappe pas fort. Ça frappe pas fort. T'es au stade des
dans
banderoles.
Feuille aussi.
T'es au stade des banderoles. La banderole, lutte contre le racisme, ok, ils rentrent sur le terrain, les
par
enfants,
la FIFA.
Le t-shirt et tout.
Par l'UFA aussi.
Ouais, mais on en a rien à faire en fait. Enfin, je veux dire, agis, retire des points, sanctionne, mais quand je parle des sanctions financières, des vraies sanctions, pas des...
Des 30 000 euros.
Oui, pas les sanctions qu'on est capable, nous, de payer en 10 fois sur 12. Enfin, c'est pas possible. Et les, malheureusement, comme ils l'ont bien résumé, les gars, c'est tant que les instances font semblant. Tant que les instances, parce qu'on sait très bien, mais ça, c'est un problème sociétal. On le voit malheureusement aussi. Ça, les langues se délient. On a plus peur. On est à un tournant quand même de l'humanité. Faut le dire. Et le sport, le football, en est la cible et en pâtit, et encore plus en Italie. Pour revenir au championnat italien, t'as un joueur. D'origine, je sais plus, de quelle origine africaine il est, de 5e division italienne, qui a quitté le terrain après des injures racistes. Et ben, il a été sanctionné. Mais à un moment, ils sont sanctionnés, les mecs. Donc, comment veux-tu déjà que ça tourne dans ce sens-là? C'est mort. C'est grave.
Bah, je rejoins totalement le coach Fotolé. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter aussi. Faut qu'on arrête de faire les hypocrites, faut qu'on arrête de faire les discours, qu'on arrête les discours démagos. Ça fait combien d'années que le racisme gangrène le football italien? Ça fait combien d'années que le racisme est une constante sur les terrains de Serie A? Ça fait pas un an, ça fait pas deux ans, ça fait déjà des décennies qu'on essaye de... que le racisme revient perpétuellement. Voilà, si c'est pas chaque week-end, c'est pratiquement tous les week-ends. Enfin, moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on fait quelque chose concrètement? Est-ce que, quand tu regardes les deux dernières décennies, ça fait une quinzaine d'années que je suis la Serie A, et à l'époque, on avait déjà ce genre de débat sulfureux. Moi, j'invite les auditeurs à aller se renseigner. Vous allez vous renseigner, vous verrez que des joueurs comme Lilian Thuram, comme Adriano, comme Obafemi Martins, comme Stéphane Appiah, à l'époque, au début des années 2000, avaient déjà été victimes de cris racistes.
C'est pas fou.
Tu prends un mec comme Marc Zorro. Je me souviens lors d'un
match. Partout, hein.
Je me souviens lors d'un match Inter-Messina. Le mec, il a quitté le terrain en pleurs parce qu'il en avait marre de supporter les cris racistes.
Se mettre à la place du joueur,
d'une frange des supporters interistes. Et on parle de faits qui se sont passés au début des années 2000. Plus de 15 ans plus tard, tu constates que rien n'a changé, tu vois. Tu constates que les campagnes publicitaires, say no to racism, dissemos no al racismo, tu comprends que c'est, comme disait le coach Otelé, c'est juste c'est juste illusoire.
Un fake de communication. Ouais.
Voilà, c'est juste des éléments de langage, tu vois. Et même pour aller dans le sens de ce que le coach disait tout à l'heure, après le match Cagliari-Inter, il y a les supporters de Cagliari qui ont écrit une lettre à Lukaku, une lettre ouverte, où il disait concrètement, où ils essayaient en gros de dédramatiser l'attitude que les supporters de Cagliari avaient eu à l'encontre de ses
propres supporters interistes.
Exactement.
C'est ça,
vois,
exactement.
J'ai même essayé de. Il lui avait dit la chose suivante. Tu lui as dit, ces cris n'étaient pas racistes, ils visaient seulement à déstabiliser l'adversaire. Quand t'entends tes propres supporters qui te disent ça, Bilal, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Comment tu veux essayer d'atténuer le racisme? On dit pas de l'enrayer, mais on dit au moins de l'atténuer. Comment tu veux essayer de l'atténuer? C'est pas possible. Dans un pays en plus où, Bilal, tu le sais mieux que moi, qui est dirigé par un mec comme Matteo Salvini, Giuseppe Conte. Quand tu connais un peu les positions idéologiques de ces mecs vis-à-vis des vagues migratoires, c'est pas étonnant que l'immigration soit autant banalisée aussi, tu vois.
Ouais. Alors, le coach Tolé, on donnera la parole aussi à Loïc.
Ouais. C'est le Scudetto, l'Italie, c'est malheureusement la pyramide. Mavuba, qui a fini sa carrière en République tchèque, a été victime de racisme.
Ouais.
D'autres joueurs qui évoluent dans certains championnats de l'Est, en Roumanie, en Serbie, ont été victimes. En France aussi, d'autres aspects, à des niveaux un petit peu moins importants. Je me souviens l'année dernière, au niveau départemental en Alsace, où deux blacks, un arabe qui avait été pris, parti par des joueurs adverses, et la sanction a été telle, ils ont été sanctionnés par le district. C'est-à-dire que tu es poursuivi par des couteaux, par des matraques, mais c'est toi qu'on sanctionne en Alsace. Je dis pas que c'est le cas partout, mais c'est une vérité, c'est pas sorti. Ça ne pouvait pas faire la une parce que ça aurait été un véritable scandale. Mais voilà où on en est aujourd'hui. les supporters interistes, typiquement, le racisme ordinaire, c'est ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui. C'est-à-dire que, ah bah, c'est un peu non, mais c'est bon, on rigole, c'est juste pour déstabiliser. Mais ça, on le voit combien de fois? J'ai pas envie de faire la victime, mais combien de fois on le voit au quotidien même?
Au-delà de ça,
et
en fait.
Et ça, c'est grave.
Au-delà de ça, là, on en parle au sport, mais ça montre aussi un fait réel et d'actualité, qui est que de ce qui se passe en Italie actuellement, il y a une forte hausse et une grande montée des partis d'extrême droite en Italie. C'est pas pour rien aussi, et on le voit, que ce sont des événements qui se répètent dans les stades italiens. C'est pas des événements qu'on voit forcément, au moins aussi flagrant que ça, dans les stades en France, par exemple. Ouais. Même si on peut en voir. Mais je pense que ça montre beaucoup du fait sociétal qui se passe en Italie actuellement.
Ouais, pour terminer, justement, je cite, après les incidents survenus hier après-midi lors du match, donc Lazio Brescia, la rencontre ayant été interrompue en raison de cris racistes contre le joueur, l'international italien Mario Balotelli, le club romain a tenu à publier un communiqué dans la soirée afin de se désolidariser des supporters visés. Je cite, comme cela s'est toujours produit par le passé, la SS Lazio se dissocie de la manière la plus forte des comportements discriminatoires mis en œuvre par une très petite minorité de supporters lors du match contre Brescia, a indiqué la direction laziale. Le club réitère une fois de plus la condamnation des délits injustes similaires et confirme son intention de poursuivre ceux qui portent une grave atteinte à l'image du club et de l'équipe bianco-céleste. Comment comprendre ce discours de politicien consistant à condamner des actes sans les condamner? N'a-t-il pas un nom d'hypocrisie?
Tout à fait, c'est de l'hypocrisie, ouais, c'est juste des effets de langage. En plus, venant de la Lazio, tu vois, franchement, c'est pas, la Lazio est quand même réputée pour être l'un des clubs les plus, enfin, pour avoir une frange de leurs supporters qui est l'une des plus extrémistes du championnat italien. Franchement, je pense que c'est des effets de langage. Ils font ça juste pour éviter une sanction peut-être beaucoup plus alourdie de la part de la fédération italienne. Mais on sait pertinemment que ça continuera à se réitérer. Bah, j'aimerais juste ajouter un fait. Genre après le match Hellas Vérone contre Brescia, où Balotelli avait déjà été victime d'insultes racistes, il y a Luca Castellini qui a été l'une des personnes qui avait été chopée à la vidéo, qui était chef des ultras du Hellas Vérone, qui a déclaré à la radio italienne quelques jours plus tard: Balotelli est italien parce qu'il a la nationalité, mais ne pourra jamais être totalement italien.
Et c'est, ouais, quand même.
Et tu vois, on donne quand même une tribune, tu vois, un temps de parole quand même à des énergumènes pareils, tu vois.
Ouais.
Tu peux pas t'étonner que comment dirais-je, qu'il y ait autant de dérives quant à ce genre de mœurs, en fait.
Ouais. On termine. Le coach Tollet.
Ouais, juste. Alors, malheureusement, faut permettre un petit peu à tout le monde de s'exprimer. Ça fait partie aussi du jeu. Tu sais mieux que moi.
Ouais.
Mais derrière tout ça, ça ne réagit pas. Ça n'agit pas. Ah. Pour revenir à ce que disait Loïc tout à l'heure,
ouais,
c'est vrai que on le retrouve peut-être moins dans les stades chez nous en France. Par contre, il y a une espèce d'hypocrisie discriminatoire,
ouais,
chez nous. On le voit dans d'autres domaines du monde du sport et du football.
Ça
passe nickel. Non, comment,
ouais,
après, c'est la
vérité. Ouais.
Si le club, veut ralentir ce phénomène-là, il peut toujours. On voit que Paris Saint-Germain, ils ont réussi à le ralentir avec, à l'époque, les Boulogne Boys. Et voilà, je pense qu'il faut taper un peu, ouais, plus fort. Et
on termine.
Comme tu le disais justement, Bilal, on vit dans un monde matérialiste. On vit dans un monde où l'argent est roi. Si on veut vraiment essayer, entre guillemets, de faire réfléchir les personnes, il faut qu'on frappe au portefeuille. Il faut des sanctions,
ouais,
des 2, des 3 millions d'euros d'amende, des retraits de points, 2, 3, 4 points. Il faut des sanctions,
Hervé,
qui peuvent même paraître un peu exagérées, mais qui vont peut-être faire réfléchir.
On suivra ça de près, comme d'habitude, dans votre émission qui est Tam Sport, 19h-20h, le 0153-48-3000. Notre invité ce soir, Nordine El Ouardani, l'entraîneur du FC Tours, est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Comment ça va, Nordine?
Bonsoir à tous, très bien, merci, et vous?
Nous, on va très très bien, justement, et on s'est mis un peu à votre place, parce que comment on en est arrivé là, avec ce ballon tiré par Youssef Idas, qui avait bien franchi, justement, cette ligne de but. Et oui, le Tour FC, ce week-end, a effectué quand même un assez grand match, si je peux me permettre, face au Croco de Nîmes. Votre réaction face à cela, peut-être une injustice, ou c'est le foot et il faut vivre avec?
Non, complètement. C'est le foot, il faut vivre avec. Si on a inventé des nouvelles technologies comme la Goal Line Technologie ou la VAR, c'est justement pour régler ce genre de problème. Malheureusement, en 32e de finale de la Coupe de France, ce n'est pas encore d'actualité. Voilà, ça arrive, c'est arrivé. Malheureusement, c'est tombé sur nous. Je sais que c'est difficile aussi d'arbitrer. Mais voilà, si on a inventé ce genre de technologie, c'est pour éviter ce genre de problème. Ce jour, samedi, on n'avait pas la technologie. Malheureusement, ouais, c'est tombé sur nous, c'est comme ça.
Justement, une réaction avec Hervé Dibi, notre consultant, avec Nordine, l'entraîneur de FC Tours.
Bonjour Nordine, vous en voulez à l'arbitrage ?
Non, 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 je dis, c'est une erreur. C'est l'erreur humaine, comme l'a dit mon joueur Youssef Idas. Je le redis, on a inventé cette technologie pour éviter ce genre de problème. Malheureusement, la technologie n'était pas là ce week-end. Donc, l'être humain fait des erreurs. Le juge de touche n'était peut-être pas concentré sur ce coup-là, parce que bon, je pense que l'arbitre, M. Turpin, ne pouvait pas le voir de là où il était. C'est vrai qu'on peut plus en vouloir au juge de touche, qui est censé être là pour au moins voir si le gardien bouge ou si le ballon rentre. Malheureusement, il n'a pas vu, ça va vite, voilà, c'est le foot. Là, il y a eu des erreurs d'arbitrage, il y en a eu, il y en aura encore, malheureusement. Bah, c'est tombé sur nous ce week-end. Ça n'enlève en rien la performance de mon équipe.
C'est ça.
À l'arrivée, on est quand même satisfait de ce qu'on a pu faire ce samedi.
On rappelle quand même le FC Tours, oui, qui évolue en National 3 face quand même au Nîmois, un club de Ligue 1, quoi, la Ligue supérieure, quoi, de l'élite du football français. Ce n'est pas rien avec ce que vous avez mis en place. Sur le match, vous satisfait de vos hommes, sans doute, Nordine, mais. Ce qu'on peut dire, elle apporte quoi cette Coupe de France ? Parce qu'on le voit quelquefois avec ces clubs de division inférieure, voilà, de directement bondir, aller à l'assaut des buts adverses de ces clubs de Ligue de Dominos ou encore de Ligue 1 Conforama. Vous en pensez quoi, justement, Nordine ?
Pour nous, aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, le Tour FC en National 3, comme vous l'avez dit, et pas le FC Tours, c'est Tour FC, parce que les supporters sont pas contents quand on dit FC Tours.
Ouais.
Le club est descendu en National 3 pour des raisons administratives. Alors déjà, d'un premier temps, des raisons sportives. On a été relégué sportivement de Ligue 2 en National, et de National en National 2. Et puis, administrativement, la DNCG nous a introduit en National 3. Donc aujourd'hui, la Coupe de France, elle a permis à mes jeunes joueurs que j'ai réussi à récupérer au dernier moment, des joueurs qui ont eu un cursus de formation, qui n'ont pas réussi à franchir le palier pour aller vers l'élite. Et j'espère qu'ils pourront le faire dans l'avenir parce qu'ils sont jeunes, ils sont entre 19 et 22 ans. Et la Coupe de France leur permet de se montrer, de se frotter à ce genre d'équipe, à le niveau où ils auraient voulu être. Et aussi, ça permet, pour finir, de remettre de la lumière sur le Tour FC, parce que le Tour FC, effectivement, a été rétrogradé et a disparu du monde professionnel depuis deux ans, depuis un an et demi, mais il existe toujours dans le monde amateur. Et puis, on fait en sorte, nous, techniciens, avec les joueurs et avec les dirigeants, d'essayer de remonter le club au plus vite possible dans le monde professionnel, à sa place.
Une réaction avec notre consultant Loïc Audran.
Écoute, Loïc. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir se refrotter à des clubs de Ligue 1 et de voir qu'on est encore compétitif face à des clubs de Ligue 1 alors qu'on est en National 3 ?
Moi, ça fait plaisir. Après, c'était quand même il y avait une forte interrogation avant le match parce qu'encore une fois, je le dis, l'équipe a été reconstruite à 98%. Effectivement, pour l'instant, on est en tête de championnat National 3. Mais ça reste que dans la National 3 et aujourd'hui, la National 3, c'est plutôt un championnat régional vu que c'était découpé au niveau des régions, donc on se retrouve entre nous dans la région centre. C'était un match pour se jauger aussi, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on
Nordine, on fait une courte pause et on vous reprend de suite après cette pause. Et on reprendra. Merci à vous.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce début de semaine, on le rappelle, lundi 6 janvier, toujours en compagnie de la fine équipe Loïc Audran, le coach Tollet et Hervé Dibi, le petit clin d'œil à Yanis, notre réalisateur. On était toujours en compagnie de Nordine Alouardani, l'entraîneur du Tour FC. Justement, on parlait de se frotter à ces fameux clubs de l'élite, notamment les clubs de Ligue 1 ou Ligue 2. Et vous étiez en train de nous dire que voilà, il fallait y croire, quoi. Il fallait avancer dans cette reconquête, si je peux me permettre, Nordine.
Oui, complètement. Se frotter à ce genre d'équipe, c'est aussi se jauger par rapport à ce qui est notre quotidien. Et et jauger nos joueurs, nos jeunes joueurs aujourd'hui, parce que mon effectif est assez jeune, et savoir quelle est leur marge de progression et savoir si on peut, quand on les a recrutés, c'est pour les accompagner, nous accompagner et accompagner le club vers le haut niveau, pour ça qu'ils sont plutôt jeunes, pour qu'on n'ait pas à renouveler l'effectif tous les ans. Et ce genre de match peut permettre de savoir si avec ces joueurs-là, on peut l'année prochaine, et par exemple si on monte et qu'on évolue en National 2 avec eux, et ainsi de suite. Donc c'est important ce genre de match, et c'est d'autant plus important quand on arrive à faire la prestation qu'on a fait samedi.
Vous avez bien raison, Nordin Wadani. Justement, avec le coach Tollet, une réaction avant de nous quitter avec notre invité de ce soir.
Bonsoir coach, et bravo pour la prestation de vos joueurs malgré l'élimination. En tout cas, vous avez montré un beau visage et que le tour n'était pas mort. Comment on est arrivé là? Vous venez quand même de très loin. Ça a été compliqué la période estivale. Ces joueurs que vous êtes allés chercher et qui sont en train de montrer de belles choses, comment s'est défini le profil de joueurs que vous êtes allés chercher à un moment où ça se faisait un petit peu tard pour le mercato?
Oui, effectivement. Bonsoir, coach. D'une, les gens n'avaient pas trop de solutions et pas trop le choix. Quand on est dans cette situation dos au mur, eh bien, il faut faire au plus vite et au mieux. Effectivement, j'avais déjà ciblé le fait que dans notre projet de ramener le club vers le haut niveau, il fallait qu'on crée un noyau dur qui puisse accompagner justement le club vers le haut niveau et que ces joueurs-là puissent franchir les paliers au fur et à mesure avec le club. Et quand on choisit des joueurs qui ont eu un parcours de formation, par exemple mon latéral gauche Victor Mwangé, champion de France U17 avec Lorient, avec la génération de Matteo Ganduzzi, Alexis Gonzalves ou Clédis Da Silva, formé à Châteauroux, qu'on a suivi. Voilà, c'est des joueurs qui ont un cursus de formation, qui n'ont pas réussi à franchir les paliers avec leur club à un moment donné parce que la barre était trop haute ou parce que le club a privilégié d'autres profils. Je trouvais que avoir des joueurs qui ont déjà une base de formation, ça pouvait nous aider à amener le club vers le niveau et aussi les amener vers le haut niveau et accompagner le club.
Justement, une dernière réaction avec Monsieur El Wardani, avec toi Loïc, avant de nous quitter.
Ouais, donc quels seraient vos objectifs avec le FC Tour sur du court et du long terme?
Le seul objectif, c'est de remonter le club. Alors après, ça prendra le temps que ça prendra. Au jour d'aujourd'hui, on a plutôt bien débuté, parce qu'on est leader dans notre poule. Et si on peut monter de la première année, c'est un gain de temps. On sait très bien que quand il y a une relégation comme ça a été la nôtre, assez tardive avec la DNCG, c'est dur de repartir et de remonter de la première année. Si on peut le faire de la première année, ça sera déjà un gain de temps. Et puis après, il va falloir se donner les moyens pour arriver le plus vite possible, au moins en National 1, en sachant très bien qu'en National 3, National 2, seul le premier monte, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur.
On l'espère, justement. Oui, et qu'on poursuit.
Et des objectifs un peu plus personnels ou pas?
Bon, vous savez, dans ce milieu, et notamment dans notre nous, en tant que techniciens, des objectifs à moyen ou long terme, c'est compliqué. Hein. Parce que quand ça va bien, ça va bien, on est tous contents, mais dès que ça va mal, on est les premiers visibles.
C'est vrai.
Non, moi, je dirais que j'aime bien m'inscrire dans les projets. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, j'ai 35 ans de foot, depuis l'âge de 5 ans, je suis dans le foot. Le Tour FC, c'est comme mon troisième club. Donc, je suis quelqu'un de projet. Si je peux accompagner le club le plus longtemps possible vers le niveau, ça sera très bien. Et puis, si à un moment donné, ça peut pas se faire, il faut aller ailleurs, bon, on ira, mais sincèrement, moi j'aimerais accompagner le club vers le haut niveau jusqu'en moins la Ligue 2, si c'est possible tant mieux, si c'est pas possible, on fera autrement.
On l'espère en tout cas, comme on dit, Inch'Allah, pourquoi pas pour vous, Nordin El Wadani, l'entraîneur du Tour FC, voilà, je vais pas
parce
dire le FC Tour, il faut pas se tromper, parce que il y a toute l'agglomération de Tours qui va m'en vouloir à moi, Bilal, bon. Justement, un petit clin d'œil à toutes ces personnes, supporters, supportrices de ce magnifique club. En tout cas, on vous souhaite le bonheur avec le club, mais aussi personnellement, parce qu'il faut beaucoup plus de gars dans l'élite, tout comme vous, Nordin. Ça, voilà, c'est
merci
le petit clin d'œil de toute l'équipe de Tamsport sur Beurre FM. Et nous, on va enchaîner avec le basketball nord-américain.
Tamsport.
Eh oui, justement, et pour en parler, on a notre Hervé Dibi. Eh oui, more than an athlete, bien plus qu'un athlète. C'est le dernier slogan censé identifier le King LeBron James, le basketteur aux 9 finales NBA, homme d'affaires désormais, producteur de télévision et de cinéma. La star des Lakers de Los Angeles ne cache pas son ambition, faut le dire, dans le business, devenir, pourquoi pas, milliardaire. LeBron a-t-il la version ultime de ce que la NBA, une des franchises sportive la plus rentable de la planète, puisse présenter comme une vitrine? Hervé, selon toi? Ouais.
Bah, c'est un homme de défi, clairement.
C'est ça. C'est et il y arrive à chaque fois.
C'est un homme qui aime se lancer des défis. Généralement, quand il se lance un défi, il se donne tous les moyens pour pouvoir le mener à son terme. Donc, lui, clairement, en plus, il a clairement annoncé. Je me souviens dans une interview, il avait clairement annoncé son envie de posséder, d'être propriétaire d'une franchise NBA. Il possède déjà des sociétés hors basket. Donc, lui, son ambition de devenir un milliardaire est tout à fait plausible. Après, LeBron James, c'est un exemple pour beaucoup d'Américains. Et d'une façon plus générale, pour beaucoup de femmes de sport. Au-delà de son palmarès, de son record de précocité.
Ouais.
Tu l'as dit, 9 finales NBA, 3 titres, pardon,
ouais,
de champion, 2 avec Miami, 1 avec Cleveland. Il a révolutionné son sport, tu vois. C'est comme l'ont fait Jordan. C'est un monstre de longévité.
On peut pas le négliger.
On peut pas le négliger. Pour moi, LeBron James, c'est vraiment la preuve que tu peux avoir du talent. Tu peux avoir autant de talent que tu veux. Si t'as pas cet esprit de sacrifice, si t'as pas cette capacité à savoir te discipliner, à savoir te surpasser, ben, tu sors pas du lot. Voilà. LeBron James, pour moi, c'est vraiment, voilà, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Et pour beaucoup de jeunes aussi qui aspirent à vouloir avoir du succès, qui aspirent à vouloir, ouais, atteindre les sommets. Parfois, on a souvent tendance à texter aux jeunes de vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre.
Ah ouais.
De vouloir atteindre les sommets sans forcément, ouais, avoir une perception plus large des sacrifices que cela nécessite. Et je pense que l'histoire de LeBron James, c'est vraiment une success story.
Ah, ça, c'est mémorable.
Voilà, dont beaucoup
on
de
d'accord avec toi.
Voilà.
On termine avec toi, Loïc, concernant LeBron.
Ouais, donc concernant LeBron James, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal de vouloir se lancer après dans le business, puisque en fait le business, c'est quelque chose aussi quelque part de sportif. En fait, à partir du moment où on est dans le sport, on se donne des défis, et à partir du moment où tu rentres dans le business, c'est quasiment la même chose, tu te donnes également des défis. Aujourd'hui, je pense qu'on peut également relever de ce qu'il fait. Il a ouvert une école avec la fondation LeBron James. Ils ont ouvert une école et ils ont débloqué, ils sont prêts à dépenser 41 millions de dollars pour envoyer des enfants pour intégrer des universités. Donc, c'est pas du business pour faire de l'argent. Je pense que c'est au-delà de ça. C'est avant tout un dépassement de soi, surtout.
Un homme assez pacifiste, en tout cas, le King LeBron James, on le rappelle, dans son club et le Staples Center, l'antre des Lakers, la Ligue nord-américaine de basketball. On vous en dira un peu plus durant les émissions de Time Sport. Ça, c'est promis. On passe au football africain, Hervé, avec le coach Tolé.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, l'Égyptien Amr Fahmy, candidat à la présidence de la CAF, le coach Tolé. Cet Égyptien, secrétaire général, on le rappelle, de la Confédération africaine de football, de novembre 2017 à avril 2019, sera candidat à la fameuse présidence de l'instance dont l'élection aura lieu dans un peu plus d'un an. Au mois d'avril dernier, on le rappelle, Fahmy avait été évincé pour faute grave par Ahmed Ahmed, le patron du football africain. Quelques semaines avant d'être écarté, Fahmy avait envoyé une lettre à la FIFA dans laquelle il accusait le Malgache de corruption et de harcèlement sexuel à l'encontre de 4 salariés égyptiennes de la CAF, dont le siège est situé, bien sûr, au Caire. L'ancien secrétaire général avait également évoqué le contrat signé avec l'entreprise française Tactical Steel, basée dans le Var. Une affaire qui avait conduit en juin dernier à Paris à l'interpellation et à la garde à vue d'Ahmad, présent en France dans le cadre du congrès de la FIFA Porte de Versailles. Doit-on s'attendre à un règlement de compte, encore une fois, version hockey choral, avant avec tir de barrage, tous azimuts, ou plutôt, justement, messieurs, petit arrangement entre amis, s'ils étaient tous deux candidats. Ça fait le sourire, Hervé. Et toi, le coach Tolé?
Il a raison de sourire, parce, ouais, qu'on a, malheureusement, on connaît l'issue de ce type d'histoire.
Toi, tu étais à la présidence, Hervé aussi, c'est ça?
Non, mais t'as quasiment tout résumé. On pense bien, alors on remet pas du tout en doute les capacités, les qualités, les compétences de ce monsieur. Mais au vu des antécédents, bon, bien évidemment, on s'attend, et malheureusement sur le continent africain, que ça soit extrêmement compliqué. Enfin, il va pas arriver comme ça sur le tapis rouge, quoi.
Ah oui.
Et puis, alors, quel projet derrière il a envie de mettre en place?
Mais justement, le changement, Yacine nous le disait, pour le football africain, il en faut, quoi.
Ouais, il a dit que
personnage,
son premier projet, il a dit que ça allait être la lutte contre la corruption.
Ouais.
Mais là, il a un grand chantier, alors.
Ouais. Alors, bah pourquoi? Mais pourquoi?
Grand chantier. Bah, c'est un peu un fléau
en Afrique. Dans le football mondial, quoi. Il n'y a pas qu'en Afrique, non?
En Afrique, dans le. Ouais, et c'est quelque chose il faut commencer un jour ou l'autre dans tous les cas. Donc
c'est vrai.
Pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre?
Un ancien corrompu qui veut s'attaquer à la corruption.
Il a été condamné pour corruption.
Tu vois, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Tu vois, la question que j'aimerais poser, c'est le futur président de la, justement de la CAF, il serait élu avec combien de pourcents? Moins ou plus de 90%?
Non, là, tu abuses. Tu peux pas dire ça. Il y a pas plus de 90%. Le code tollé, toi, tu réagis pas à ça.
Non, parce que ce qu'il dit, malheureusement, c'est.
Arrête tes bêtises, toi aussi.
Je vais te dire que c'est pas faux, c'est même vrai.
Non.
C'est vrai. C'est... Non, mais non,
plus
non,
de
mais
90, non.
Non mais ce qui est ce qui m'épuise, c'est que oui, dès qu'il s'agit en plus du continent africain, c'est multiplié par 10, 20, 30, 40, 50, 100, on est pris pour des guignols. Les gens le savent, nous on nourrit ça, c'est triste, alors que t'as un continent avec un potentiel extraordinaire, avec des joueurs, un potentiel monstrueux, et t'as tout à faire, t'as tout à construire, mais même quand t'as envie de faire de très bonnes choses, t'as toujours des imbéciles de première classe qui sont là pour te mettre des bateaux dans les roues.
Alors on termine avec toi.
Ce serait quoi donc les solutions?
Moi je suis, alors la solution de vouloir déjà compromettre la corruption, on dit pas que c'est une mauvaise chose, on dit que ça va être compliqué. Maintenant, faut bien commencer un jour. Là, je suis carrément d'accord, mais le chantier, il est
vaste.
Il est tellement vaste, on en a partout de la corruption, c'est ça qui est compliqué. Le vrai souci, c'est de donner les moyens aux différents pays d'essayer de semi-professionnaliser. Je parle même pas de professionnaliser, semi, ne serait-ce mettre des structures intéressantes un peu partout. On sait que c'est compliqué, ça met du temps. Mais le problème, c'est que même dans certains pays, ils ne veulent pas avoir leur pays structuré. Donc c'est compliqué, comment on fait, quoi.
Bilal, tu veux pas lancer ta candidature?
Mais pourquoi pas, hein?
Avec le coach hôtelier.
Ouais, mais j'ai oublié après mon job de journaliste. Ouais, ça c'est sûr. Je pourrais pas.
Nous, on est des gentils, ils vont nous tacler. Ouais. Arrive à l'aéroport, ils vont...
Mais c'est bon, le coach hôtelier, c'est un beau bébé. Alors... On va faire une courte pause, la dernière de cette émission, et on reviendra avec l'équipe. L'équipe de France. Non, l'équipe de France, on a le temps encore. On reviendra avec les 32e de finale de cette fameuse Coupe de France, avec des recettes, des non-recettes, n'est-ce pas, Yanis? Mais aussi des matchs du côté de l'île de la Réunion, sans oublier aussi le terrain du Chamois Nortier. Ça va être de suite après. Vous oubliez
sûr,
pas
Bilal.
Le 01 53 48,
la présidence de la CAF. Ça irait bien, en plus t'as du réseau en plus.
À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie de Time Sport en ce lundi soir, 19h-20h, votre quotidien sportif sur l'antenne de Beurre, avec votre équipe Loïc Caudran, je le rappelle, Hervé Dibi, et aussi le coach Tollé pour terminer cette émission. Justement, des petites infos à balancer comme ça. C'est le clap de fin pour Antoine Comboiré du côté de Toulouse, condamné par l'élimination en Coupe de France samedi. Le successeur d'Alain Casanova n'aura tenu que 83 jours sur le banc du TFC. Giovanni Van Bronckhorst, c'était un bon joueur, ça. L'ancien latéral.
C'est énorme.
Justement,
c'est Barcelone.
Néerlandais, oui, du FC Barcelone. File directement en Chine et prend les rênes du Guangzhou RF. Et où il succède, justement, une ancienne gloire du.
Barcelone.
Non, une ancienne gloire de la Canebière, de Marseille, Dragan Stojkovic.
Ah! Stojkovic.
Tu l'enverras le lien de Dragan Stojkovic du Mondial 90.
La révélation de la Coupe du Monde 90, ouais. Et c'était le record de transfert en France lorsqu'il arrive.
C'est pas faux.
De l'étalonge de Belgrade, qui était contacté par le grand Milan AC.
Ouais, à l'époque aussi.
Mais ouais. Les blessures l'ont.
Il avait chippé.
Le fait qu'il n'a pas eu la carrière espérée.
Au Rossoneri, c'est vrai.
Ah, sérieux.
C'est pas faux.
C'était.
On s'attarde, messieurs, sur cette fameuse Coupe de France.
Time Sport. Le duel.
Deuxième de finale de la Coupe de France. Ce week-end, le football français fait son entrée après cette trêve hivernale. Et comme le veut la tradition, ce sont les 32e, messieurs, qui ouvrent le bal avec l'entrée en lice des fameux clubs de Ligue 1. Pour une fois, on ne parle pas de la Réunion à cause des requins. Le petit bonjour là-bas. mais on parle vraiment de football dans cette fameuse Coupe de France. Et pourquoi, Yannis? Sentiment de joie dans Lille après l'espoir de Saint-Pierre-Péroise. C'est la première fois qu'un club de Lille atteint les fameuses 16e de finale de la Coupe de France. Toute la Réunion, fan de foot ou pas, se prend à rêver justement après l'espoir réalisé samedi par les joueurs de la Saint-Péroise qui ont battu Niort en 32e de finale de cette fameuse Coupe de France. Donc c'est un peu, en quelque sorte, la magie, cette Coupe de France, cette phase finale. Le coach Tollet.
Ah ouais, ça fait, ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver, ça fait du bien, c'est le football
Trélissac
authentique.
Trélissac croyait même.
Eh oui, mais ça fait du bien de voir un petit peu tout ça. Trélissac qui a plus que bousculé l'Olympique de Marseille.
Et ça arrive souvent.
Oui,
les clubs bousculent souvent, les clubs de Ligue 2 ou encore
ça arrive souvent. Par contre, là, autant la Ligue 2, il n'en reste plus que 3, autant la Ligue 1, les équipes, malgré les difficultés, ont quand même assuré leur statut. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de représentants de Ligue 1 à ce stade de la compétition. Mais voilà, ça fait surtout du bien de voir qu'il y a beaucoup de régions de foot, de voir de nouveaux stades. Moi, j'étais à Calais pour voir le stade Portelois contre le Racing Club de Strasbourg. C'est agréable. C'est agréable parce que tu as affaire à de vrais passionnés qui ont les yeux qui brillent pour voir les stars de notre Ligue 1 et d'essayer de voir ces petits bousculer ou pourquoi pas créer la surprise face aux grands. Ça fait du bien.
Ça fait du bien, justement. Ouais. Mais c'est ces personnes qui font le football français, quoi.
Ah bah bien sûr.
À travers cette Coupe de France.
On parlait de Tours.
Les jeunes supporters, ces jeunes clubs.
On parlait de Tours tout à l'heure. T'as beaucoup de clubs amateurs structurés qui récupèrent, tu sais, des joueurs qui malheureusement n'ont pas eu la chance de signer un contrat pro et donc essaient de se relancer dans ces clubs de en général N3, N2, voire N1. Donc tu te retrouves aussi avec des équipes qui ont des projets intéressants où tu vois des joueurs qui ont un peu de qualité. Donc non, c'est sympa, c'est bien.
Loïc, quand on l'écoute concernant cette Coupe de France.
Concernant cette Coupe de France, Bilal, en tant que Marseillais, je voulais te demander. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille?
Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Moi, je sais pas, j'y étais pas ce week-end. En tout cas, j'ai vu que Marseille a abusé parce que elle s'est fait malmener par cette équipe de National 3, Trélissac. Ouais. Du sud-ouest.
Mais moi,
j'ai bien aimé.
Après Marseille, quand tu regardes
quand
tu regardes le parcours récent, ils ont quand même l'habitude de se faire chahuter en 32e de finale. Ils perdent contre Carquefou, Grenoble,
mais ces clubs-là vont loin aussi dans la Coupe de France aussi, les clubs.
Oui, mais ils ont quand même un statut à faire respecter. Après, je trouve que il y a pas vraiment de leçons à tirer par rapport à Marseille, d'enseignements à tirer par rapport à ce match. Moi, le seul constat que je ferais, c'est que.
Alors, c'est quoi?
C'est un match que Marseille, sous l'ère Garcia, aurait probablement perdu.
Ouais. Et là, avec Villas-Boas,
force est de constater qu'ils ont la baraka,
de cloche.
Voilà, ils ont la baraka. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Peut-être un mois, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Mais ils arrivent à gagner des matchs, des rencontres étriquées qu'ils auraient probablement perdu sous.
Baraka. Quand Marseille va gagner, je crois, le retour contre le Paris Saint-Germain, je sais pas si tu pourras dire la baraka.
Mais moi, je suis neutre.
Yacine, il a dit envoie. Yannis, on va lui envoyer.
Si Marseille gagne, tant mieux pour eux. Ouais. Enfin, moi, je suis totalement neutre.
Ouais, tu seras heureux. Ça apporterait de la joie et de la bonne humeur.
Au-delà de ça,
on va s'attarder sur quoi? Mais je vois venir, justement, il n'y a pas de problème.
Extra-sportif.
Ouais. Alors, justement, l'extra-sportif. Alors, explique-toi, vas-y, devant les auditeurs qui nous écoutent ce soir.
Fais ta plaisir.
Pourquoi?
Alors, sur le fait, tout simplement, par rapport à ce qui se fait traditionnellement en France, du fait qu'un club professionnel reverse les recettes au club amateur. Je me pose la question, en fait, pourquoi ils l'ont pas fait.
Ouais.
Je cherche des réponses. Je me suis dit peut-être que comme ce sont des personnes investisseurs dans le football qui sont peut-être pas forcément très proches du milieu du football, c'est l'excuse que
justement
on peut peut-être leur trouver. Après,
on va rappeler aux auditrices et aux éditeurs, l'OM s'est qualifié aux dépens de Trélissac pour les 16e de finale de cette fameuse Coupe de France. Mais c'est à l'issue de la rencontre, les Phocéens n'ont pas laissé, comme cela est de coutume, leur part de la recette aux amateurs. Ce qui a créé une polémique qui n'en finit plus. Voilà, c'est pour ça que. C'est vrai, venant de Marseille, mais je crois que vraiment, il y a nombre de supporters qui ont réagi face à cela.
Non, mais c'est sûrement un malentendu. Je sais pas en fait.
Non, vraiment, parce que les supporters ont été vraiment en colère. de parce que voilà, ça représente pas
de Trélissac ou de Marseille.
Non, de Trélissac bien sûr, à mon avis.
Non, mais je pense que de l'OM aussi, je pense.
Ont été en colère, mais
non, mais les gens de l'OM aussi, je pense, parce que ça vient un petit peu l'image de Marseille.
On est bien d'accord. Et c'est surtout une image assez folklorique.
C'est un faux débat. L'année dernière, Lille a fait la même chose avec 7.
Ouais, mais quand même,
l'année dernière, Lille a fait la même chose avec 7.
Paris a joué.
On n'en a pas fait des caisses parce que c'est Marseille, voilà. Ils sont des clients, ils font un tapage médiatique. L'année dernière, Lille a fait la même chose avec 7. On en a parlé un jour, deux jours.
Ouais, mais je sais pas, Lille, ça passe mieux, Lille. Allez, pour te dire, Lille, ça passe mieux. Pourquoi? Parce que Marseille, chaque week-end, remplit à plus de 50 000 supporters.
C'est un vrai club.
Et c'est pour ça. Et moi, j'aurais donné cette fameuse enveloppe à ces 7,07€ plutôt à ce club qui est Trélissac.
Bilal, je suis pas en train de te dire que ce qu'ils ont fait c'est bien.
Non,
je te dis juste que je comprends pas pourquoi et les mecs ils s'étonnent, ils crient au plafond.
La réaction de Loïc.
Enfin, voilà.
Non, on se demande pourquoi. On peut se demander pourquoi.
Mais je crois que même les joueurs eux-mêmes.
Franchement, ça va changer quoi.
Ça va changer. Pour comprendre, peut-être que derrière Marseille ils sont vraiment très mal sur le plan financier.
Bah, peut-être qu'il avait besoin d'argent pour faire des PowerPoints. Je sais pas, il avait pas d'argent pour faire des PowerPoints. Il avait besoin d'une petite recette, je sais pas.
Ouais, tout de même, en plus, voilà, c'est la troisième fois que Trélissac jouait le club marseillais. C'est la première fois que cela arrivait.
Voilà. En fait, c'est quand on sait ce qui se passe dans le football amateur et quand on est confronté tous les jours au football amateur, ça fait mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur, mais. Après, en fait, moi, de mon avis personnel, j'essaie toujours de trouver des excuses. Donc, je me dis, là, j'essaie de trouver une excuse à Marseille. Après, malheureusement, j'ai un peu de mal. Mais
ça se trouve, dans la semaine, on va entendre que Marseille a fait. Enfin, tu vois, on ne sait pas. Ça a peut-être pris tellement, entre guillemets, d'ampleur.
Coach, après, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de se justifier, tu vois?
48 heures. Bah, c'est vrai que après, pour rejoindre Hervé, alors attention,
alors, ce qu'il a fait. Oui, bien sûr.
Si on reste comme ça, sans
raison, pas se justifier.
C'est pas classe.
Oui.
C'est pas classe, mais par contre, on ne connaît pas les raisons. Donc, ce serait bien déjà d'entendre le président.
Bien sûr.
Maintenant, attention, ça ne fait pas partie des règles. Ils ne sont pas obligés de le faire. En général, ce qui se passe, qu'on m'a expliqué au sein de la communication du Stade Portelois, c'est qu'à la fin du match, ils décident ou non de laisser. Il n'y a pas de pacte au début ou de quoi que signer. Maintenant, je vous rejoins. C'est clair que c'est quand même bizarre d'un club aussi prestigieux en France que l'Olympique de Marseille.
Bien sûr.
En plus, la recette, c'est 150 000 euros, je crois, un truc comme ça.
Non, c'était près de 400 000 euros.
400 000 euros.
C'est pas rien pour un club tel que
de Bilal.
Trélissac.
De Bilal. Ouais, de Bilal.
Ouais,
de Bilal.
Aussi.
De Bilal.
Ouais, quand même. C'est une belle somme.
Je connais tes fiches de paye, Bilal.
C'est une belle. Oui, ça, je le sais bien. Hervé, on n'en dira pas plus. On va s'attarder. En cette fin d'émission, la dernière rubrique de Thème Sport pour parler d'un certain Zlatan.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, justement, Zlatan Ibrahimovic, ce qu'il faut retenir de la présentation du fameux Zlatan Ibrahimovic, ce géant suédois. J'ai eu plus de propositions, je cite, à 38 ans qu'à 28 ans. Ouais, fallait le dire, et lui, carrément, il a balancé. Oui, de retour au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic était présenté à la presse, justement vendredi. Cet attaquant. Il a notamment profité pour affirmer qu'il se sentait prêt justement à reprendre de la compétition avec les Rossoneri. Coup de bluff, coup de buzz, peut-être messieurs, dames, mais en tout cas, bonne affaire pour les Milanais. Loïc.
Ouais, je pense que peut-être bonne affaire pour les Milanais. Après,
assez loin derrière les Milanais.
Après, à voir.
Deuxième, classement, hein. Ouais.
Deuxième.
À voir. Zlatan Ibrahimovic, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, il a démontré son talent à tous les niveaux. Est-ce que sur le plan sportif, plus, je sais pas, mais ce qui est sûr au plan de la communication, ouais, là, le Milan, ils ont tapé un bon coup. Aujourd'hui, entre guillemets, on peut dire le foot business. Je pense que là, ça en fait partie. Ils vont redorer un peu leur image avec des grands joueurs de grands noms. Donc, je pense que voilà, c'est ce qu'on attend aujourd'hui du Milan AC, de refaire venir des grands noms. Et faut commencer petit, et puis bah entre guillemets petit, puis après avec le temps les autres bons joueurs suivront, je pense.
Bah je suis pas d'accord avec toi.
Ouais.
Je pense que quelque part, enfin là pour moi la venue d'Ibrahimovic c'est un peu un désaveu, on a vu dans la puissance de la part des deux hommes forts du Milan AC que sont Zvonimir Boban et Paolo Maldini. Pourquoi? Quand tu regardes les 18 derniers mois, tu te rends compte que le Milan AC avait eu la tendance à miser sur des jeunes joueurs, sur des promesses qui n'ont pas encore éclos.
justement,
à qui on a perçu du talent, comme Benacer, comme Souza.
Mais justement, les jeunes joueurs, ils ont besoin d'être accompagnés par des anciens aussi.
Oui, mais
une personne comme Ibrahimovic, elle a tout vu du football.
Il y a pas.
Moi, là où ça me fait le plus peur, c'est plus pour Ibrahimovic, parce que j'ai peur qu'il se grille. Il aurait mieux fait de faire à la limite comme Zidane, terminer sur une belle fin et s'arrêter. Moi, je suis un peu gêné par les grands joueurs qui ont du mal à s'arrêter, parce que au final, après, ils se grillent eux-mêmes. C'est ça plus qu'il va me gêner pour lui. J'ai juste peur pour ça.
S'il a encore les jambes pour continuer, tant mieux. Je pense que vous avez tous les deux, pour moi, vous avez tous les deux raison. Ibrahimovic, clairement, va apporter dans son vestiaire le vécu du haut niveau, etc.
Ouais, incroyable.
Si le Milan le récupère, c'est que je pense qu'il a quand même un peu de gaz. Je donne pas plus de 6 mois, un an, parce qu'après, il y a un moment aussi, voilà, ça commence à tirailler. Maintenant, c'est vrai que t'es le Milan AC, t'es en difficulté depuis un petit moment, et faire venir Ibrahimovic, grand joueur qu'il a été et ce qu'il peut encore apporter, c'est vrai que ça montre quand même
une
faiblesse de la part du Milan AC.
Est-ce que le Paris Saint-Germain, quand ils ont fait venir Beckham, on a dit que ça montrait une faiblesse?
Oui, mais
c'est pas la même chose. Là, on parle quand même du Milan AC, mec. On parle d'une équipe qui est 12e du championnat. Ils ont marqué, je crois, 16 buts en 18 matchs. Ils ont déjà concédé 8 défaites sur 18 matchs. Ils ont perdu pratiquement un match sur deux. C'est une équipe qui a besoin de talent, tu vois.
Mais Ibrahimovic, quand
Beckham.
Laisse-moi terminer. Je suis en train de te dire qu'Ibrahimovic, aussi fort a-t-il été, il aura besoin d'être bien entouré. Tu vois les joueurs du Milan AC, il y en a, tu te poses des questions, je suis désolé. Enfin, il y a des joueurs qui sont énormément limités, des mecs comme Kessier, comme Biglia, comme Bonaventura. Tu vois, ils ont quelques pépites comme Théo Hernandez, comme Suso, comme Léao qui est remplaçant. Mais tu vois quand même que c'est une équipe qui est vraiment très loin de son lustre d'antan.
Et l'attaquant aussi polonais qui
attaque, tu vois.
Qui a fait un gros une grosse saison l'année dernière.
Exactement, tu vois.
Patine, ouais.
Ce que j'essaie de te dire, c'est que pour que le Milan AC fasse marche arrière sur son projet qu'il est en train de bâtir avec des joueurs comme Piatek.
Non, je pense pas que ce soit une marche arrière.
Pour moi, c'est un aveu d'impuissance. C'est un peu une manière de dire, écoute, là, franchement, on est un peu désespéré. On a besoin de quelqu'un qui va peut-être rentabiliser pendant 6 mois, mais pas plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
C'est un cas d'urgence. C'est pas une marche arrière. Alors, quand tu as un vestiaire jeune, assez jeune, je sais plus quelle est la moyenne d'âge au Milan AC, t'as besoin d'anciens. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça qui leur manque.
Des joueurs expérimentés.
Pour après, ça compte pour l'avenir. Ça veut dire demain, tous ces joueurs-là, ils vont profiter de l'expérience d'Ibrahimovic.
Vous avez tous les deux raison pour moi, en fait. Il y a les deux. Moi, je suis d'accord avec vous deux, en fait.
De faire venir Ibrahimovic.
Vous complétez. Je pense que on a un bon duo là.
Un milieu
de terrain relayeur.
Il y a des joueurs comme Ricardo Rodriguez. Il y a des joueurs comme Matteo Musacchio. Il y a des joueurs comme Romagnoli. C'est pas des mecs qui sont nés hier. C'est des mecs qui ont déjà un vécu, tu vois.
C'est vrai, mais Ibrahimovic, c'est une icône du football mondial.
Pour moi, c'est la stature.
Quelque part, ça peut être.
Il va apporter.
Ça peut être comme une locomotive. Un Milan AC qui est en difficulté. Par contre, je suis d'accord avec vous, sur 6 mois, pas plus. Beckham, c'est du marketing.
Clairement.
C'est encore un autre cas de figure.
Mais Ibrahimovic,
début du projet.
Ça peut aussi en faire partie, plus ou moins. Il va faire parler Ibrahimovic.
Tu vois où il veut
l'emmener. Et regarde, il arrive, regarde, tout le monde en parle qu'il est arrivé.
On en parle de
Ibrahimovic.
Il va tous les attaler, quoi.
Il va te sortir une phrase tous les 3 semaines et on en reparlera.
Est-ce qu'il a été recruté pour être sur le banc, Ibrahimovic?
Non, je
suis pas sûr.
Aujourd'hui, il était sur le banc. Il
va rentrer progressivement.
Ouais, il va le faire, le match.
Alors que Beckham, il arrivait, on voyait quand même clairement que c'était pour vendre les maillots, etc. Voilà.
Ibrahimovic, j'aimerais bien voir les chiffres, mais ça va faire vendre des maillots à nouveau, je pense.
C'est sûr. Ça va faire vendre des maillots. En attendant, ils ont vraiment pas de retard sur l'Inter et 23 sur la Juve. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, mais t'inquiète pas, Zlatan, il faut y croire aussi.
Ils vont peut-être récupérer Thiago Silva à l'issue de la saison. Hein.
Aïe.
Peut-être le retour des deux.
Ça va devenir la maison de retraite dans ce cas.
Ah, la maison. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, tu dois respecter le Milan AC.
Moi, j'aimerais bien respecter le Milan AC, mais force est de constater que depuis quelques saisons, ils sont sur la pente descendante, à l'image d'Arsenal en Angleterre, à l'image d'un peu dans une moindre mesure de Manchester United. Voilà, c'est des clubs qui ont eu un passé de gloire et qui, depuis quelques saisons, sont en train un peu de sombrer doucement mais sûrement dans l'anonymat.
Après, le Milan AC et Manchester, quand même, ça reste encore de mastodon, pardon, du football européen mondial. Arsenal, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que ils ont besoin de retrouver un second souffle.
Clairement.
Justement, la vente de maillots de Zlatan Ibrahimovic, faut la regarder de près. Moi, je suis d'accord avec Loïc, ça marchera. Et même, on en avait parlé dernièrement avec Myriam Metzala, notre consultante.
De la dernière grosse équipe du Milan AC, Ronaldinho avec Thiago Silva, avant que le Milan AC soit obligé de vendre malheureusement ses meilleurs joueurs.
Tu vois les noms qu'ils avaient à l'époque, regarde les noms qu'ils ont maintenant.
Ibrahimovic maintenant, c'est
bon. Tu vois les noms qu'ils avaient, tu regardes les noms maintenant, on dirait.
C'est pas terminé, faut y croire encore.
Ça fait de la peine, franchement, ça fait pitié.
Ah, mais là, tu dis ça parce qu'ils sont à ce niveau-là à l'heure actuelle, mais s'ils seraient premiers, on verrait voir, regarde les
gros. Ça fait 3 saisons que c'est comme ça.
Ça reviendra bien. Loïc, ça je le promets pour
on parle du retour de Savic.
Oh oui.
Et de
Massaro
aussi.
Et de Weya.
Ouais. Tu les as comparés. Savic c'est Hervé et Massaro c'est Loïc, c'est ça?
C'est ça.
C'est le duo.
Ouais. Magicien.
Ah ben pourquoi pas. Vous restez à l'écoute de Beurre FM, la suite des programmes avec le Café des Artistes et Mourad. Et sans oublier la matinale de demain qui arrivera à grands pas avec toute l'équipe de Kim.
Et là, tu veux pas la présidence de la CAF?
Non, pas du tout. Okay. Non, pas du tout. Je laisse faire mon intro. Et là, après, on reviendra avec vous demain, mardi, 19h, 20h, votre quotidienne sportive qui est Tam Sport. Un grand merci et toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et notamment à être à l'écoute. Bye bye et très bonne soirée sur l'antenne de Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.